Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons rencontrer Pauline Bonny. C'est la fondatrice de la marque Sève. Cette marque a tout juste un an, mais elle cartonne déjà et sans grand coût de communication. Alors Sève, c'est un succès média puisque la marque compte déjà 125 points de vente rien qu'en France et de nombreuses récompenses prestigieuses comme le prix Santé Magazine attribué par les plus grands professionnels de la santé. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que la marque Sève a de spécial ? Eh bien, vous allez le découvrir, car c'est une formule naturelle à base de sève fraîche de bouleau bio, ainsi que du chaga bio, un champignon aux effets magiques. Oui, Pauline Bonny est une grande passionnée de beauté qui a décidé de créer des cosmétiques autrement. C'est en retournant dans son Auvergne natale, au cœur des forêts millénaires, que la jeune femme est allée dénicher des principes actifs rares nécessaires pour prendre soin de notre peau. Pauline va nous en dire plus. Elle m'a gentiment reçue dans ses locaux à Paris, dans le 8e arrondissement. Nous sommes à côté de la Madeleine exactement. Ah oui, et la bonne nouvelle du jour, c'est que vous allez avoir moins 15% avec le code PODCAT, P-O-D-K-A-T, sur le site de la marque Sève, donc sève.com. Et ça dure un mois, donc vous avez jusqu'au 15 novembre. Allez, tout est dit, en place, c'est le PODCAT beauté avec la marque Sève. Bonjour Pauline.
Bonjour Katia.
Alors, c'est ton premier podcast ?
Oui, c'est mon premier podcast. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. On va voir. J'espère que ça va bien se passer.
Normalement, oui. Alors, est-ce que tu peux me raconter d'où tu viens et où as-tu passé ton enfance pour qu'on comprenne mieux plus tard toute la création
bien
de ta
sûr.
Société ?
Alors, moi, je suis lyonnaise à la base, mais toute ma famille est auvergnate. Plus spécifiquement du Cantal, donc de Mauriac, qui est la sous-préfecture du Cantal. Et donc moi, j'ai grandi à Lyon parce que mon papa était commissaire de police. Donc dans le Cantal, il n'y a pas trop de postes pour ce genre de métier. Mais en revanche, on allait tous les week-ends et toutes les vacances scolaires en Auvergne parce que mon père est très attaché à sa région d'origine et mes grands-parents habitent dans le Cantal, enfin habitaient.
D'accord. Mais alors du coup, à quel moment tu es arrivée à Paris ?
Alors moi, je suis arrivée à Paris parce que j'ai toujours été passionnée de cosmétiques. Et donc, après ma prépa et mon école de commerce, j'ai voulu travailler dans les cosmétiques. Et évidemment, j'ai trouvé un poste à Paris en stage. J'ai fait un stage de longue durée de un an. À l'époque, j'étais assez pionnière. J'étais la première de mon école à faire ça. C'était dans un autre siècle. Et donc, j'ai travaillé chez Sanofi Beauté.
Ah oui.
Donc voilà, j'ai fait un an de césure. Donc, je suis arrivée à Paris. Je devais avoir 21 ans. Et 21, ouais. Et après, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Boots Healthcare, sur la marque Onagreen à l'époque.
D'accord. Donc, voilà. Donc Boots qu'on trouve un peu partout en Angleterre.
Absolument, voilà. Mais qui avait racheté des marques de cosmétiques, en fait.
D'accord, très bien. Et donc, ton parcours est très cosmétique.
Absolument.
Finalement, après tes stages, tu as eu très vite des CDI dans les cosmétiques. Tu peux nous raconter un petit peu chez qui tu as travaillé, pendant combien de temps ?
Bien sûr. Donc moi, c'est vrai que j'ai voulu vraiment orienter ma carrière vers la beauté, vers cette industrie cosmétique qui est si prolifique. Et c'était la belle époque aussi. C'était début des années 2000. Donc j'ai trouvé un travail tout de suite. En fait, comme j'avais du coup fait finalement 18 mois d'expérience en stage, c'est vrai que j'avais un peu une longueur d'avance sur d'autres étudiantes qui avaient fait des stages de moins longue durée. Et j'ai trouvé en fait un CDI chez Caudalie.
Waouh.
Où j'ai eu... Alors à l'époque, c'était pas si waouh parce qu'il y avait... On était 5.
Oui, petite équipe.
Ouais. Il y avait 3 produits. Mais c'est vrai que j'ai un vrai coup de cœur pour Mathilde Thomas. Je pense que ça a été réciproque puisqu'on a travaillé quand même 11 ans ensemble. Ouais. Et ça a été une super aventure, très entrepreneuriale. Je pense que moi, en fait, ça a aussi comblé certainement ce que j'avais déjà en moi. Mmh. Et puis, ça m'a aussi forgé à ce mode d'action un peu couteau suisse, si on peut dire, où on fait plein de choses, où on apprend en marchant, où on va tenter des choses, on teste, on apprend. Enfin, voilà, à l'époque, ça s'appelait pas une start-up, parce que ce mot n'existait pas encore, en France en tout cas, mais c'était vraiment ce mode d'action. Et donc, je travaillais 11 ans là-bas, j'ai développé tous les produits. Enfin, après, je m'occupais de tout de la com, du digital, du dev, de l'opérationnel. Et donc, j'ai constitué une équipe pendant 11 ans, j'ai développé tous les produits avec Mathilde Thomas et le professeur Vercotren, les brevets. Et donc c'était une super expérience parce qu'elle est également très liée au terrain, donc j'ai appris aussi qu'aller sur le terrain, parler aux vraies consommatrices, aux clients, c'était hyper important pour avoir les insights, pour pouvoir se remettre en question, pour progresser, pour pas être dans sa tour d'ivoire et puis faire des produits que personne veut ou que seules les études démontrent que les gens le veulent, mais en fait les vrais gens le veulent pas forcément. Donc voilà, c'était une très bonne expérience. Je suis partie de chez Caudalie pour aller chez Roger Gallet, sur la marque Roger Gallet, donc chez L'Oréal, la division cosmétique active, où j'étais directrice marque Intinter. Où là, en fait, j'ai dû, pendant 4 ans, en fait, inventer le nouveau business model de la marque autour du retail. Donc, ça veut dire, en fait, créer une boutique à Paris qui, après, parce que la marque était vendue qu'en pharmacie, était pas mal franco-française. Et de fait, pour s'exporter, en particulier en Asie, qui était l'ambition du groupe, c'était de créer une expérience en boutique, une boutique qu'on pourrait exporter, dont on pourrait exporter le modèle en Chine et au Japon en particulier. Donc voilà, et puis j'ai aussi refait toute l'image de la marque et surtout la naturalité, emmener la marque vers plus de naturalité, même si ce n'est pas toujours très très facile dans un grand groupe. D'impulser des gros changements comme ça.
Ça a été un gros changement pour toi entre Caudalie et L'Oréal, du coup.
En fait, oui, ça a été, on peut dire, un choc thermique. oui, ça a été un énorme changement parce que finalement, chez Caudalie, j'avais beaucoup de liberté. Et chez L'Oréal, je me suis retrouvée un petit peu comme un lion en cage. C'est-à-dire qu'avec des process, évidemment, on ne fait pas... il n'y a pas les mêmes process dans une entreprise de peut-être 400 personnes à l'époque chez Caudalie quand je suis partie une entreprise de 60 000 personnes chez L'Oréal. Donc, mais bon, moi, c'est quelque chose qui ne me convenait pas forcément parce que être en réunion à peu près 8 heures par jour, faire des PowerPoint, des présentations. Donc moi, je me suis sentie assez frustrée en fait de la vitesse, enfin justement de l'absence de vitesse et
T'avais l'impression de pas avancer sur tes projets.
J'ai l'impression chez L'Oréal on aime bien dire faire refaire défaire pour mieux refaire, mais moi je trouvais que parfois c'était faire défaire pour ne rien faire, donc c'était quand même un petit peu frustrant. En tout cas moi c'est par rapport à ma personnalité, c'est quelque chose qui me convenait pas forcément, même si j'ai adoré, parce que j'ai adoré mon équipe, j'ai eu un boss génial, une super équipe, des très beaux projets, des gros budgets, une très jolie marque. Voilà, moi après c'était plus l'environnement global qui n'allait pas forcément avec ma personnalité et surtout l'expérience que j'avais eue qui était très entrepreneuriale. Ouais. Et du coup là j'étais assez freinée en fait dans mon élan, dans mon dynamisme. Bon, je suis quand même restée 4 ans, j'ai appris plein de choses, mais voilà, j'en suis partie.
Ok, donc 4 ans chez L'Oréal. Justement, qu'est-ce que tu as retenu pendant ces 15 années de cosmétiques sur la consommatrice ?
Alors, j'ai retenu que la consommatrice, elle a bien changé depuis,
beauté,
bien sûr, depuis le début, grâce au digital déjà, parce que moi, quand j'ai commencé, il y avait des blogs, il y avait des forums peut-être même. maintenant avec le digital et surtout les applis depuis quelques années, la consommatrice devient extrêmement experte. Même quand elle va en pharmacie, elle en connaît plus que les vendeuses. Donc ça, je trouve que c'est super parce que on peut plus lui faire à l'envers, si je peux dire de façon un peu triviale. Je trouve que cette consommatrice, cette femme, elle a, moi je trouve qu'on est passé beaucoup d'un rapport 70-80 un rapport à la beauté, dans la séduction, alors qu'aujourd'hui je trouve qu'on n'est plus du tout là-dedans, on est vraiment dans de l'empowerment. Vraiment on veut exprimer sa singularité. La beauté, ça sert à ça en fait, ça sert à exprimer qui on est sans se soucier presque du regard des autres. Ça sert à avoir confiance en soi, ça sert à se sentir belle, à se sentir bien dans sa peau et du coup d'être beaucoup plus forte parce qu'on a plus confiance en soi et ça je trouve ça génial. Et en même temps cette consommatrice je la trouve un peu perdue aussi parce que moi je consulte tous les messages Insta, tous les mails qu'on a la chance de recevoir et c'est vrai qu'elle a une telle offre. Il y a des choses qui se contredisent tous les jours. Il y a un scandale sanitaire, un scandale sur un tel ou tel ingrédient qui d'un coup devient cancéreux, cancérigène sur une appli, pas sur l'autre. Voilà. Et après, elle a des questions aussi assez basiques. Nous, en personne du marketing, on ne se rend pas vraiment compte puisque moi, j'ai même des questions sur le sérum, comment ça se met, à quel moment. Alors pour nous, on est déjà passé au niveau de l'essence, le pré-sérum. Enfin, alors on part aussi dans des délires de marketeurs. Mais c'est vrai que voilà, elle est à la fois... Enfin, disons qu'il y a différents niveaux de consommatrices. Il y a les très expertes, les femmes qui connaissent très très bien la beauté et qui vont chercher tout ce qu'il faut pour les rendre encore plus belles, plus de confiance en soi, s'exprimer leur personnalité. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu encore, un peu perdues encore. Et du coup, on est là pour les aider aussi.
Et du coup, on revient un petit peu dans ton enfance. Parle-moi de tes vacances du côté de Mauriac, dans le jardin de tes grands-parents, il me semble. C'est finalement là où il y a une histoire qui s'est créée.
Oui, absolument. Alors, il faut savoir, je ne sais pas si tout le monde situe où est Mauriac. En tout cas, Aurillac, je pense que vous allez le situer sur la carte de la météo. C'était toujours le petit rond bleu, ce qui m'a assez en fureur, en colère, les habitants de là-bas. Parce que, soi-disant, la station météo n'est pas émise hyper haute. Enfin, je sais pas, il y a plein de polémiques. Mais en tout cas, c'est le petit rond bleu sur la carte de France. C'est là où il fait toujours hyper froid, en fait. C'est là où il fait toujours moins 10 degrés par rapport à ailleurs. En tout cas, du coup, ce climat très rigoureux... le sol volcanique, puisque là, on est en plein cœur du parc national, du parc régional des volcans d'Auvergne, qui est le plus grand d'Europe et le plus ancien, fait qu'il y a un sol qui est extrêmement riche en minéraux, qui est extrêmement riche en silice, et ce qui est super pour la pousse des bouleaux. D'accord. Donc, en fait, en Auvergne, il y a beaucoup de bouleaux. Parce que les bouleaux, c'est une espèce pionnière qui a survécu à l'époque glaciaire. C'est deux seuls arbres qui ont survécu, dont un est le bouleau. Et donc voilà, le bouleau s'épanouit dans des régions au climat très froid et avec un sol volcanique tel que celui qu'on retrouve dans le Cantal. Et donc il y a beaucoup de bouleau. Et donc pour en revenir à ta question, dans le parc de mes grands-parents, il y avait beaucoup de bouleaux, beaucoup d'arbres, et dont des bouleaux. Et moi, c'est vrai que les bouleaux, ça a toujours été mon arbre préféré, parce qu'il y avait ces espèces de grandes tiges blanches. Donc moi aussi, je suis très grande, donc je m'identifie un peu à eux. Alors, espèces de grands arbres blancs, très fins, qu'on voyait en fait presque à la lumière grâce à l'acide bétulinique. En fait, l'écorce blanche est presque scintillante même la nuit. Les petites feuilles, vous verrez, vous penserez à moi cet été quand vous verrez un bouleau, mais les petites feuilles du bouleau, en fait, elles frémissent sous l'effet du soleil et du vent l'été. Et c'est hyper beau, ça fait vraiment comme si le bouleau dansait. Et puis c'était le seul arbre que je savais reconnaître quand j'étais petite, parce qu'il est tellement caractéristique avec son écorce blanche. Donc voilà, moi j'ai toujours adoré le bouleau. Et puis ma grand-mère, en fait, faisait des cures de sève de bouleau. Donc ça veut dire que c'est un peu magique, si on peut dire, parce que c'est que à la lune ascendante de Mars. C'est comme les marées, en fait. C'est assez inexpliqué encore, la montée de la sève. Donc il y a la sève qui monte dans les arbres que pendant 3 semaines. Et c'est à ce moment-là qu'on peut recueillir la sève de bouleau. Ouais. Donc un arbre, il produit à peu près une centaine de litres de sève par jour. Donc sans aucun dommage pour l'arbre, on peut prendre jusqu'à 5 litres de sève par jour. Donc en fait, il faut juste faire un petit trou de 1 cm, soit avec une chignole, soit avec une petite perceuse, dans le tronc de l'arbre, mettre un petit tuyau de qualité alimentaire, donc c'est des tuyaux transparents. D'ailleurs, vous pourrez retrouver sur mon site
sève.com,
parce que j'ai fait une vidéo justement pour expliquer comment ça se passe. Je suis allée recueillir avec les cueilleurs de plantes médicinales avec qui on travaille en Auvergne, je suis allée faire la récolte de la sève. Et donc, en fait, la sève coule comme dans un robinet, hein, coule vraiment à flot, si on peut dire. Et c'est une eau, c'est fait comme une eau, en fait, c'est très transparent. Et donc là, on prend un demi-verre par jour, qu'on prend entre les repas. Et donc la cure de sève de bouleau, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas du tout ma grand-mère qui l'a inventé. C'est depuis Pline l'Ancien, depuis la Grèce ancienne, il y a déjà des écrits dessus. François-Marie Percy, qui était le chirurgien des armées de Napoléon, en parle aussi. C'est vraiment une tradition qui est ultra répandue dans les pays scandinaves. Et en fait, la sève de bouleau, elle a la vertu Déjà, il faut savoir qu'il n'y a que 3 sèves au monde qu'on peut boire, qu'on puisse boire. Il y a la sève d'érable, mais c'est la sève descendante. Vous savez, c'est le sirop d'érable qui est très, très sirupeux, sucré, donc il n'a pas de vertu sur la santé. Et la sève de tilleul, mais qui n'a pas de vertu thérapeutique. Et la sève de bouleau. Et la sève de bouleau, elle a la vertu d'agir sur tous les émonctoires du corps humain. Donc le pancréas, le foie, les reins. Et elle va les détoxifier parce qu'elle a une composition naturelle, minérale unique. Et donc elle va détoxifier l'organisme et en plus elle va le reminéraliser. Donc ça a des vertus, ben, on le voit en fait sur les cheveux, sur le teint, sur les ongles, mais aussi sur l'arthrose. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui font des cures de sève de bouleau. Même sur la goutte, enfin, donc voilà, c'est vraiment un élixir assez miraculeux. Et donc moi j'étais toujours super stupéfaite, et puis je trouvais que c'était, je trouve ça magnifique, cette espèce de concomitance de la renaissance de la nature avec nous qui sortons de l'hiver pour décrasser l'organisme. Enfin voilà, c'est l'arbre, il paraît mort, et grâce à la sève il renaît complètement. Il devient voilà, il reprend toutes ses feuilles,
ses pouvoirs,
et voilà, ouais. Et du coup je trouve que c'était hyper beau en fait, cette communion avec la nature. Et puis après, donc faut bien reboucher en revanche quand on enlève le petit tuyau, faut reboucher avec un petit bouchon de liège ou un petit bouchon en bois pour pas que la sève elle s'écoule pour rien, et puis pour pas qu'il y ait des bactéries qui rentrent dans l'arbre.
Bon bah très bien, donc là on comprend très bien que tu as vraiment vécu toute ton enfance avec le bouleau, et c'est ta grand-mère qui t'a vraiment montré ce qu'un bouleau pouvait
absolument
donner. Et à quel moment du coup t'as le déclic pour la sève de bouleau, c'est-à-dire le déclic à l'utiliser en cosmétique, et surtout à quel moment tu décides de créer ta marque?
Alors en fait, quand je suis partie de L'Oréal, j'avais un projet d'expatriation qui finalement ne s'est pas fait. Et donc, je me suis un peu retrouvée le bec dans l'eau à me dire, bon, voilà, j'allais avoir 40 ans. J'avais fait la petite boîte, la grosse boîte. Je me suis dit, bon, maintenant, c'est quoi next? Est-ce que je vais retourner dans un grand groupe, refaire pareil? Donc non, en fait, je ne me sentais pas du tout. Et donc, en fait, je me suis dit, je vais faire totalement autre chose.
Ouais.
Donc je vais faire, parce que moi, j'adore l'art, j'adore l'illustration. et je me suis dit, je vais faire le yellow corner de l'illustration. Donc me voilà partie dans les incubateurs, dans The Family, qui est un super incubateur. Voilà, donc je fais des cours de codage, de code. Je fais des cours de growth hacking pendant 2 mois, qu'avec des jeunes dont je pouvais être. On a fêté l'anniversaire du prof qui avait 21 ans. J'aurais pu être sa mère. j'ai pris un petit coup de vieux. Mais c'était génial. Il y avait une espèce d'énergie de dingue. Voilà, c'était super. Moi, j'apprenais plein de nouvelles choses. J'adore apprendre. Du coup, c'était cure de jouvence. Et puis, finalement, Oussama Ammar, qui est un peu mon gourou, enfin, qui est vraiment un des créateurs de The Family, en fait, faisait des cours sur comment monter sa start-up, etc. Et puis, en fait, dit à un moment, de manière, pour réussir une start-up, il faut avoir un secret. Enfin, il faut soit votre grand-père, il connaît quelque chose, enfin voilà, la filière spéciale du thé en Chine, soit vous avez un secret, mais genre vous lancez pas, en tout cas à un certain âge, dans un milieu que vous ne connaissez pas du tout, enfin ça va prendre trop de temps. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit, c'est sûr, là, je vais mettre, déjà pour comprendre le milieu des galeries, des artistes, comment ça marche, les agents, tout ça, je voyais que je commençais un peu à galérer, enfin que c'était un milieu qui m'était totalement étranger, même si j'avais un gros tropisme pour ce milieu. Mais donc, je me suis dit, non, mais c'est vrai, il a raison, en fait, moi. Puis peut-être que j'avais un peu perdu cette appétence pour les cosmétiques, finalement, en faisant trop de présentations PowerPoint. Mais c'est quand même vite revenu, finalement. J'ai dit, finalement, à un moment, quand je me suis posée en disant, mais c'est quoi qui m'anime, c'est quoi mon secret, finalement, mon secret, c'est la beauté, c'est les ingrédients naturels. Moi, j'adore ça. Je pense que je suis faite pour ça. Enfin, pour moi, la beauté, pour moi, c'est l'équilibre parfait. C'est-à-dire, c'est le cerveau droit, le cerveau gauche. C'est, je crois que je te le disais au téléphone, mais moi je suis Sagittaire, donc c'est les pieds dans, c'est les racines, voilà, dans le sol, c'est la tête dans les étoiles. Et je trouve que la beauté, surtout le skincare, c'est exactement ça. C'est des choses rationnelles, c'est la raison, c'est l'émotion. C'est les deux combinés, moi ça me comble totalement, c'est-à-dire il y a les tests cliniques, les brevets, toutes les études qu'on peut faire sur le pouvoir des ingrédients, toute la biologie finalement, la dermatologie, donc qui sont des sciences. Et puis à côté de ça, il y a tout le côté hyper créatif, comment créer un univers, faire rêver, faire quelque chose d'aspirationnel. Et du coup, moi, ben voilà, quand je me suis posée deux secondes, mais c'était ça. Enfin, moi, mon secret, c'est mon amour de la cosmétique, de la beauté, et puis aider les femmes à, voilà, à se sentir mieux. Enfin, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens en plus pour moi. Et donc, j'ai décidé de repartir dans le milieu de la cosmétique pour créer ma marque. Alors, il se trouve que en même temps, j'ai été contactée sur LinkedIn par un monsieur français qui travaillait avec un investisseur asiatique. Et finalement, de fil en aiguille, voilà, on est arrivé à s'entendre, en fait, sur la création de la marque. Et là, donc, il a fallu que je commence à créer la marque. Et donc, assez naturellement, finalement, j'ai tout de suite pensé à la sève de bouleau. Parce que j'avais ça en moi, parce que moi j'ai à peu près 10 000 idées par jour. Et la sève de bouleau finalement m'est venue assez naturellement. J'ai commencé à regarder s'il y avait des choses, la sève de bouleau sur la peau. J'en ai pas trouvé, donc je me suis dit que c'est une piste super intéressante à creuser parce qu'elle est tellement détoxifiante, donc antioxydante. Dans le bouleau, il y a de l'acide bétulinique qui est très intéressant aussi. Enfin, c'était sûr que pour la peau, il y avait des choses super. Donc, en fait, j'ai contacté un botaniste. Et lui, le botaniste, il m'a aussi assez confirmé qu'il pensait que la sève de bouleau avait des vertus pour la peau. Et il m'a fait découvrir le chaga. Le chaga, c'est un champignon extraordinaire. C'est un champignon qui est surnommé le champignon de l'immortalité et qui ne vit que sur le bouleau. Et là, je me suis dit, non, mais c'est trop beau.
Ah, il vit sur le bouleau.
Il ne vit exclusivement sur le bouleau.
D'accord.
C'est le champignon du bouleau. Et c'est le seul champignon médicinal qu'on ne peut pas cultiver, par rapport au reishi, au shiitake. Et donc, je me suis dit, non, mais c'est trop beau pour être vrai. Donc, je fais des recherches pas mal sur le chaga. Solzhenitsyn, en fait, dans son livre, Le pavillon des cancéreux. Donc, Solzhenitsyn, c'est prix Nobel de littérature russe. Pavillon des cancéreux, il parle du chaga, en fait, où il dit que dans cette région de Sibérie, il n'y a pas de cancer. Et donc, il y a une équipe de médecins qui va voir pourquoi. Et donc, il n'y a que des paysans qui habitent là-bas, donc ils scrutent un peu, enfin, ils observent, ils analysent tout le mode de vie de cette population. Et il se trouve que, faute de moyens pour s'acheter du thé, en fait, les paysans vont tous les matins racler sur le bouleau, parce qu'il y a beaucoup de bouleau en Sibérie, comme il fait très très froid, le chaga sur l'écorce du bouleau, parce que le chaga, en fait, a une saveur assez réglissée. Et le mettent dans des infusions d'eau chaude, ça leur fait comme du thé. Et en fait, le chaga est bourré de bêta-glucane. Donc le bêta-glucane, c'est des boosters de cellules immunitaires. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils n'auraient pas le cancer.
D'accord.
Donc voilà, là, j'ai un peu vu la Vierge là, quand il m'a parlé de ça. Après, moi, je voulais absolument... Déjà, on n'était pas sûr qu'il y ait du chaga en France. Ouais. Je voulais absolument plus que ça vienne d'Auvergne.
Et savoir si ça allait sur la peau aussi, non ?
Voilà, absolument. Alors ça, en fait, comme c'était bourré de bêta-glucane et d'antioxydants, c'était pratiquement sûr que ça allait, que sur la peau, ça aurait des effets. Mais c'était surtout qu'il fallait trouver, en plus, l'extracteur, en fait, parce que moi, je veux titrer tous les actifs. Donc, titrer les actifs, c'est-à-dire qu'on ne prend pas juste les actifs, on les met en poudre et on les met dans les formules, comme c'est souvent dans la cosmétique naturelle conventionnelle. Non, moi, c'est titré, ça allait chercher le principe actif. Donc, pour le chaga, ça veut dire le récolter sur l'arbre. Déjà, il faut qu'il ait au moins 10 ans d'âge. Et c'est après le cryogéniser à l'azote, à moins 200 degrés. Donc, il faut trouver un extracteur vraiment spécifique et pour faire exploser toutes les molécules actives et ne recueillir que les molécules actives qui nous intéressent pour ne pas avoir plein de choses qui ne sont pas intéressantes pour la peau. Donc, je trouve un extracteur en Auvergne.
En Auvergne.
À Riom-Châtel-Guyon, ouais. Incroyable. Et donc, lui, il m'a dit, non, en fait. Alors, la sève de bouleau, OK. Mais le chaga, non. Nous, on le source qu'au Canada, en Russie.
Mais en Auvergne, les gens connaissaient le chaga, du coup,
pas trop. Alors, ils connaissaient pas. Alors, ouais. eux, ils connaissaient parce qu'ils avaient un sourcing au Canada. Mais je crois qu'ils n'en avaient jamais acheté. Et donc, ils m'ont dit, bah, no way, non, il n'y en a pas. Non, moi, j'ai dit, si, il y a des bouleaux, il fait méga froid, il y a le temps, il y a le sol, c'est sûr qu'il y a du chaga. Genre, mais absolument. Donc, ils m'ont dit, bah, non. Deux mois après, ils m'ont appelé et ils m'ont dit, on a trouvé le cueilleur de plantes médicinales, le seul qui, en fait, connaît le chaga, qu'il le récolte depuis 5 ans pour son usage personnel, mais il peut nous le récolter. Et donc il s'appelait Alexis, et donc je suis allée avec lui, voilà,
chercher le chaga.
Donc je passais une journée avec lui. C'est difficile à trouver le chaga, puisque c'est un peu aléatoire, hein. C'est pas tous les boulots qui en ont.
Ça se voit vraiment, c'est grand.
Ouais, c'est en fait, il faut y aller au mois de novembre, parce que ça peut être assez haut, ça peut être caché par les feuilles, donc aller en mois de novembre. C'est moins 15. Oui, il neigeait, enfin bon. Et en fait, c'est gros, ça fait vraiment comme une tubérance noire. Voilà, c'est assez gros. D'accord. Et il faut le scier, en fait, parce que c'est très, très, très dur. Et à l'intérieur, c'est doré. C'est très beau. Et donc, voilà, on a fait la première école de chaga.
Et lui, il en faisait quoi pour son usage personnel?
Bah, il se faisait des infusions, en fait. Ouais, avec D'accord. sa femme, et il m'a dit ça fait 5 ans que je suis pas malade, en fait. Donc voilà, donc on a fait du chaga, mais chez Wild on the Moon, vous avez du chocolat chaga, en fait.
D'accord.
Maintenant, c'est...
Ok. Et finalement, comment l'a pris ta famille ou même tes amis, parce que t'étais dans des grosses boîtes, salariés. Donc le fait de monter une société de cosmétiques, est-ce que ça les a pas fait flipper un petit peu?
Je disais un peu trop rien. J'ai pas trop parlé dessus parce que je me suis dit, si je me plante, je vais pas commencer à dire mes ambitions, et puis peut-être je peux pivoter. Enfin, j'ai préféré un peu rien dire. Voilà, je suis sur un projet, mais voilà, je préfère pas trop en parler pour le moment. Donc je pense qu'il me faisait confiance globalement. Après, moi, j'en ai pas trop parlé parce que en fait, j'avais un rêve tellement énorme. Que je me suis dit, ils vont me prendre mais pour une folle. Et voilà, parce que j'ai tout de suite vu le haut de la montagne. Enfin, moi, j'étais déjà genre en train de travailler sur les conférences de presse, alors que j'avais pas un seul produit qui était fait. En fait, je voyais déjà la big picture. Voilà, donc puis même, en fait, de le verbaliser, c'était peut-être aussi trop flippant pour moi. Je sais pas, je l'ai tenu assez secret, en fait. Même quand ça a commencé à sortir, mes amis m'ont dit, mais c'est ça que tu faisais? Non, mais c'est dingue, mais c'est ouf, mais c'est trop bien, t'aurais pu nous en parler. Mais en fait, j'ai pas une certaine, je sais pas...
Non, mais t'as bien fait, je pense.
Voilà, je me sentais comme ça, après.
Mais alors, dis-moi, pourquoi tu as appelé, enfin, on peut s'en douter, pourquoi tu as appelé ta marque Sève, donc qui s'écrit S-A-E-V-E?
Oui, alors c'est A-E, mais c'est un diphtongue, en fait. C'est le E dans le A, donc en général, il n'y a que les Laetitia qui savent le prononcer correctement, sinon tout le monde dit Sève. Alors, donc pourquoi je l'ai appelé comme ça? Ben, parce que c'est la sève qui save votre peau. Et puis le diphtongue, je l'aimais bien parce que c'était un petit clin d'œil avec les crochets, c'est un petit clin d'œil au botaniste avec qui j'ai travaillé. Parce que le diphtongue, c'est une lettre latine. Et d'ailleurs, dans tous mes produits, les noms des gammes, en fait, c'est le nom latin de la plante. Donc, avec un petit twist pour qu'on comprenne ce que c'est, mais par exemple, Hydra malva, parce que Malva sylvestris, ça, c'est le nom de la mauve. Vous avez Détox officinal, parce que le nom du pissenlit, c'est Taraxacum officinal. Voilà, donc tous, ils ont comme ça Citrus pur paradisus, parce que Citrus paradisus, c'est le nom latin du pamplemousse rose. Donc voilà, je voulais aussi un petit clin d'œil avec ce botaniste, parce que malheureusement, les botanistes, c'est une espèce en voie de disparition. Il n'y a presque plus... donc moi, c'est un vieux monsieur de 70 ans avec qui je travaillais. Et c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de botanistes, en fait, aujourd'hui, alors que c'est... moi, je trouve ça mais merveilleux. Et puis moi, ce que je voulais aussi, c'était que des ingrédients qu'on retrouve dans la nature française. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, enfin voilà, moi, 15 ans de cosmétiques, j'en ai vu d'Amazonie, d'Afrique du Sud, de Madagascar. Enfin, certes, c'est super, mais en fait, je trouve que c'était une autre époque, en fait, où on allait chercher des ingrédients parce que ben, on n'avait pas ces biotechnologies, en fait, on n'avait pas toutes ces techniques d'extraction. Et du coup, ben voilà, c'était toujours la surenchère, fallait chercher toujours plus loin des plantes pour faire rêver, mais finalement, ben voilà, on les réduisait en poudre, elles n'avaient pas forcément des actions différente que des plantes d'ici. Et puis, c'était beaucoup plus exotique, ça faisait rêver aussi. Alors qu'aujourd'hui, dans la pharmacopée française, puisque moi, il y a plein d'ingrédients qui viennent de la pharmacopée française, la mauve, par exemple, est dans la pharmacopée française, mais il faut la titrer. Donc la titre en mucilage et donc grâce aux biotechnologies aujourd'hui on revisite en fait on retrouve ce qu'on appelait un peu des recettes de grand-mère, voilà, la salade de pissenlit, pourquoi c'est hyper voilà, ça avait des vertus sur la santé, plein de choses en fait, le pamplemousse rose, quand on fait un compost on voit que les pépins de pamplemousse sont les seules choses qui ne pourrissent pas parce qu'ils sont pleins d'agents bactéricides. Donc tout ça en fait on le revisite aujourd'hui à la lumière de la biotechnologie et je trouve ça génial et qu'on n'est pas voilà, et moi je suis hyper contente de prendre tous mes ingrédients dans la nature française et de mettre ce patrimoine voilà, français en avant.
Donc j'allais te demander si c'est du 100% made in France, mais tu as répondu.
Voilà.
Et alors, c'est vrai que là, tu as été citée, comme je disais dans l'intro, tu as été beaucoup citée ces derniers temps, tu as gagné pas mal de prix. Pour faire connaître ta marque, tu es passée par les réseaux sociaux au départ. Comment tu as fait?
Alors, j'ai fait deux choses concomitantes. Je travaille pas mal la presse.
Ouais.
Voilà, j'ai la chance de travailler avec une agence de presse qui est top, avec qui j'ai déjà beaucoup travaillé par le passé. Donc on s'est tout de suite bien comprise, voilà, je sais comment elles travaillent, elles savent comment je travaille, et donc ça, elles sont très douées. J'ai eu beaucoup de chance que l'histoire, que l'univers plaise beaucoup, donc il y a eu un gros engouement tout de suite. Et après, moi, de fait, de tout ce que j'ai fait pendant ces 6-8 mois avant de créer la marque, dans le digital, comme je te disais, le growth hacking, enfin moi j'adore ça, je passe mon temps sur les stats du site, je suis un peu une geekette après l'heure, mais en tout cas j'adore ça, donc moi c'est sûr que les réseaux sociaux aujourd'hui en plus avec des petits moyens ça nous permet de faire quand même d'avoir une caisse de résonance qu'on n'avait pas du tout à l'époque, par exemple au tout début quand j'ai commencé ma carrière. Et ça permet vraiment, si on les travaille bien avec les nano, micro, middle, influenceuses.
Oui, j'ai vu que vous travaillez pas mal avec les influenceurs. Oui,
absolument. Ouais. On travaille pas mal avec ça, on fait beaucoup de growth, de Facebook, d'Insta, parce que en fait, on a un super taux de fidélité, de réachat. Donc moi, en fait, mon combat aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire connaître la marque au plus grand nombre, que commence par essayer un produit. Et après, je sais que la qualité des produits, en fait, fait qu'elle réachète.
Qu'est-ce que les clientes te disent le plus, au final, dès qu'elles essayent ton produit? Qu'est-ce qui ressort?
Ce qui ressort... Alors, j'ai des témoignages hallucinants. Hein. Enfin, parfois, j'ai les larmes aux yeux.
J'en ai vu quelques-uns dans tes stories.
Ouais, c'est des témoignages de gens qui me disent « Georges, vous m'avez sauvé la vie. » Enfin, ça faisait 10 ans que je n'étais pas sortie de chez moi sans me mettre 12 tonnes de fond de teint. J'avais honte de ma peau. Enfin, vraiment des mots, une sémantique très très forte. Vraiment sur de l'émotion liée à la peau. Et là, vous avez changé ma vie. C'est la première fois que je sors sans maquillage. J'ai retrouvé confiance en moi. Enfin, moi, ça, je trouve ça... ça me donne beaucoup de sens à ce que je fais. Et donc, voilà, j'ai des témoignages comme ça, hyper dithyrambiques, qui sont trop mignons, quoi. Enfin, merci beaucoup, mesdames, de m'envoyer ça. Parce que c'est aussi pour ça qu'on le fait. Et puis après, c'est les textures, les fragrances dans un premier temps. Et puis les effets, parce que moi, j'ai bourré mes produits de principes actifs, en fait. Donc, je sais combien on en met dans l'industrie d'habitude. Et moi, je sais que j'en ai mis 10 fois plus. Donc, à un moment, il n'y a pas de secret. Enfin, à un moment, si les produits aussi, ils marchent. Enfin, ils marchent sur la peau. C'est parce qu'aussi, on a mis ce qu'il faut dedans.
Oui, donc dans tes produits, il y a de la sève, de bouleau, il y a du...
Chaga, ouais, qui a un brevet.
Donc tout est bio. Hein.
Alors ça, c'est bio, parce que c'est récolté dans le parc naturel des volcans d'Auvergne, qui est certifié EcoCert.
D'accord.
Donc le brevet est bio, et après...
Et beaucoup de principes actifs, et...
Ouais, d'accord. Beaucoup de plantes.
Beaucoup de plantes.
Jusqu'à 99% d'ingrédients d'origine naturelle.
D'accord, ok. Alors quel est le produit pour faire connaissance avec la marque?
Alors moi, le produit, c'est les sérums. Donc en fait, il y a une collection de 6 sérums. Parce que les sérums, c'est ce qu'il y a de plus concentré dans ma marque. Donc, c'est vraiment des petites potions botaniques magiques, je les appelle. Elles ont toutes des galéniques différentes, des textures différentes. et des effets différents, mais selon votre type de peau, que ce soit déshydraté, sensible, grasse, acnéique, perte de fermeté, tâches, perte d'éclat, enfin, vous pourrez trouver votre bonheur chez Sève.
Et pour se mettre d'accord une bonne fois pour toutes, le sérum, on l'applique à quel moment? Alors, j'ai beaucoup cette question.
Le sérum, on l'applique avant la crème, voilà, matin et soir. J'ai déjà d'ailleurs fait un tuto moi-même sur mon site pour expliquer quand est-ce qu'on l'applique. Donc voilà, il y a deux écoles, dans la main, 4 à 5 gouttes dans la main et après on se l'applique sur le visage, soit directement la pipette, parce que tous les sérums sont pipettes, soit directement la pipette, une goutte front, joue, menton et après on se l'applique en massage.
D'accord. Et le soir, sérum plus crème aussi?
Ouais.
D'accord. Alors voilà, Pauline, c'est le moment des questions beauté, donc c'est plus personnel et ça te concerne. Qu'est-ce que tu te dis lorsque tu te regardes dans le miroir?
Je dis merci papa, merci maman. Parce que déjà, pour deux choses, parce que la première, ben, la beauté, enfin en tout cas l'état de la peau, la qualité de la peau, c'est quand même 50% de la génétique. Donc voilà, donc moi j'ai plutôt eu de la chance de ce côté-là. J'ai toujours une belle peau, après j'en ai pris soin, donc ça aide aussi. Et puis après, je leur dis merci, parce que quand je me vois dans la glace, en fait, je vois quelqu'un qui est hyper épanoui, qui a eu une éducation... qui m'a permis en fait d'avoir confiance en moi, d'avoir du courage, d'avoir des bonnes valeurs, parce que je vous le disais, mon papa il est commissaire de police, donc moi j'ai des valeurs d'honnêteté, de transparence, de vérité, qui font que c'est quelque chose qui est très important pour moi, et je pense que je suis très alignée en ce moment avec tout ça. Et du coup, voilà, donc quand je me vois dans le miroir, je dis merci, merci la vie, merci... Voilà, merci papa, merci maman.
Beau témoignage pour tes parents. Et est-ce que tu as une routine beauté à partager avec nous? Alors, soit celle du matin, soit celle du soir. Parce que c'est vrai que là, vous ne voyez pas, mais elle a une peau magnifique.
Alors, j'ai une routine. Tout de suite, je pense à quelque chose que j'adore faire, mais c'est plus corps, en fait. Je fais tous les matins, en fait. C'est une amie australienne qui m'a donné ce tips il y a quelques années. Et c'est de se brosser avec une brosse en crin. Tous les matins à sec, donc sur peau sèche, faut remonter des pieds jusqu'à la taille et puis après les bras et le ventre jusqu'au cœur. Et ça me procure un bien-être, donc ça draine la lymphe, ça enlève la cellulite, ça fait une peau douce, d'une douceur mais de dingue. Ça remue les sangs, donc le matin c'est hyper tonifiant, même si au début ça fait un peu mal, j'avoue, mais maintenant je peux plus m'en passer, donc ça c'est mon rituel corps.
Donc ça donne de l'énergie aussi.
Ça donne, moi ça me... En 5 minutes, ça y est, je suis prête. Je suis hyper chaud. Et après, pour le visage, alors ça dépend des matins, mais souvent je me mets deux sérums. Je me mets un sérum hydratant Sève, le Hydra Malva, et après je me mets le sérum Perfect Pissum, le sérum anti-tache éclat, et après je me mets la crème nuit, c'est un peu bizarre, mais j'adore le fini, la crème nuit Perfect Pissum que je mets en jour, parce qu'elle a un fini velours, un fini hyper matifiant que j'adore, elle a une odeur de ouf, voilà, donc ça c'est ma routine beauté, et après je me maquille très peu en fait. Une BB cream et du mascara.
Alors, le meilleur conseil beauté qu'on t'ait donné?
Le meilleur conseil beauté, bon, je pense que c'est un peu une tarte à la crème ce que je vais dire, parce que souvent j'entends qu'on dit ça, mais c'est vrai, c'est le démaquillage le soir. Moi, je rentre à 5h du mat de soirée ou... Toute ma vie, en fait, je me suis démaquillée, hyper bien démaquillée, même quand j'étais ado, même quand j'étais... même quand je me maquille pas, d'ailleurs. Même quand j'ai fait la fête. Je me suis toujours hyper bien démaquillée. Ça, je pense que c'est super important pour la qualité de la peau. Parce qu'en plus, la nuit, c'est là où il y a le renouvellement cellulaire qui se fait. Alors, si la peau est déjà très encombrée de fond de teint, d'impuretés. Donc ça, c'était ma mère qui m'a toujours inculqué ça. Et après, mes deux grands-mères étaient hyper coquettes, tout le temps sur leur 31, poudrées, tout le temps maquillées. Je les ai jamais vues pas maquillées. Donc, je pense qu'aussi, moi, j'avais une espèce de tradition familiale de la beauté Alors, c'était pas des tips beauté, mais c'était plus une attitude, en fait. Voilà.
Élégante.
Ouais, voilà, sortir.
Et ton dernier achat maquillage ? C'est vrai que tu te maquilles pas beaucoup, non. Mais t'as un petit peu de rouge à lèvres.
Voilà, c'était pour toi. Merci. Mon dernier achat maquillage, moi j'adore. C'est une fille de mon équipe qui est une ancienne make-up artiste. Et en fait, j'aime bien le côté un peu sun-kiss, enfin un peu rosé sur les... Avant, je me mettais toujours de la terracotta. Et en fait, une fois, on m'a dit que je ressemblais à Casimir. Je l'ai un petit peu mal pris. Donc en fait, je me mets du rose. Et c'est un rose de chez Chanel qui s'appelle Joue Contraste, je crois. In Love, ça s'appelle, la couleur. Et je l'aime bien parce qu'elle est assez transparente, elle est rosée, assez naturelle. Et du coup, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est ça que j'achète.
Est-ce que tu as un gros ratage beauté ou peut-être capillaire à nous raconter pendant les années lycée?
Oui, alors si, je me suis fait faire une coupe au carré sous l'oreille. C'était immonde.
J'ai fait ça aussi.
Je revois des photos, je me suis dit, mon Dieu. Donc en fait, en plus, comme je suis très grande, brune, enfin, j'étais un peu Olive, la femme de Popeye. Mais je revois ça, je me suis dit, mais mon Dieu, mais comment j'ai pu faire ça? Voilà, enfin, bon, rien de traumatisant.
Alors, qu'est-ce qu'une belle femme pour toi?
Alors, une belle femme pour moi, c'est plus une question d'attitude, en fait, d'allure. C'est quelqu'un qui assume son âge, qui n'est pas retouché par chirurgie esthétique. Voilà, c'est quelqu'un qui diffuse quelque chose, en fait, plus une belle énergie. Voilà, j'ai rencontré là un salon d'influenceurs, justement une femme qui doit avoir 58 ans, je crois, qui est influenceuse, et j'ai trouvé génial. Elle, elle a des rides, elle a des cheveux gris, et elle était belle, elle était radieuse, souriante. Enfin, je pense que le sourire, c'est le plus beau des make-up. Et j'ai trouvé hyper belle, et je me suis dit, à son âge, je voudrais être comme elle, en fait. Enfin, j'adorerais, comme ça, diffuser. Elle a des rides, elle a des taches, c'est l'expression de sa peau aussi, de sa vie. Et voilà, elle continue de prendre soin d'elle, parce qu'on peut avoir... on peut être comme on est, sa morphologie, mais prendre soin de soi, s'habiller, se mettre des accessoires, sourire... prendre soin de sa peau, se maquiller, enfin moi, pour moi c'est ça, une belle femme.
Alors on va passer aux questions en vrac. Pauline, dis-moi comment c'est de passer de la vie de salariée à celle de créatrice d'entreprise, parce que ça doit être un gros changement.
En fait c'est hyper excitant et en même temps c'est hyper responsabilisant, parce que là il y a des équipes qu'on emmène avec nous. Qui n'ont pas forcément les mêmes attentes, la même vision que moi, donc il faut les motiver, leur expliquer, aller ensemble vers où je pense qu'il faut aller. C'est flippant, parce qu'il y a tout à construire, parce qu'aujourd'hui on est plus dans les cosmétiques, c'est quand même un monde qui est très très saturé. Donc en fait on se prend un peu des portes hyper souvent dans la tête, mais en même temps se sent hyper libre, parce que pour moi la liberté c'est une valeur hyper importante, et c'est pour ça certainement que je me suis sentie aussi frustrée dans une expérience précédente. Et voilà, se sentir libre de décider, de dire moi je veux ça dans mes produits, avec l'équipe, mais se dire on décide rapidement de ce qu'on pense le mieux, en fait, même si on fait des erreurs, apprendre, c'est très ça fait grandir beaucoup.
À quel moment es-tu la plus heureuse?
Je suis souvent très heureuse parce que j'adore ce que je fais, en fait. Tous les matins, en fait, je suis hyper contente d'aller au travail. Et après je suis très heureuse, par exemple, quand je pense à un moment de bonheur immense, ça a été par exemple cet été avec mes enfants et mon mari. Donc j'ai deux petits garçons de 9 et 10 ans, et on a fait l'Ouest américain, et on était tous les quatre, et c'était un moment de bonheur intense. On était dans les parcs, on était dans la nature, On a fait des randonnées et dans des paysages à couper le souffle. C'était formidable. Donc voilà, ça c'était c'est quelque chose auquel, voilà, quand il pleut, qu'un pharmacien ne veut pas ouvrir, c'est, ouais. Et que je me suis pris trois claques, je pense à ce moment et ça va mieux.
Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout?
Je déteste le mensonge, je déteste l'hypocrisie. J'ai l'injustice, c'est des choses qui peuvent me rendre un peu dingue, enfin un peu, voilà, qui... Je suis pas du tout comme ça, je suis hyper transparente, je suis hyper franche, j'essaye toujours d'être juste, même si je suis exigeante, en tout cas, voilà, moi je... Donc voilà, ça c'est vraiment des choses que j'exècre.
Qu'est-ce que tu fais quand t'as une journée hyper dure, très très stressante, pour te détendre?
Je raconte toute ma vie à mon mari qui est formidable, qui est un coach, qui est mon coach.
Il écoute. Il écoute.
Il écoute, mais surtout, il sait tout le temps. Il me connaît tellement bien. Et puis, il est de super bons conseils. Donc il sait toujours trouver les mots pour m'apaiser, pour me permettre d'ouvrir une autre fenêtre, trouver une alternative. Que moi, je fonce droit, je vois tout en noir. Et c'est la catastrophe, c'est la fin de la vie, parce que je suis un peu toujours dans l'extrême. Et lui, il arrive toujours, voilà, à me donner un conseil à m'écouter et à me donner un conseil.
Il t'apaise un peu.
Totalement, ouais.
Donc t'as besoin de verbaliser en fait quand t'es stressée.
Quand même, ouais.
Un bain, ça te fait rien en fait.
Non, parce que je ressasse en fait.
Dans le bain. Ok. T'as un mantra dans la vie?
Alors moi, j'ai été élevée avec deux mantras qui sont « qui n'ose rien n'a rien » et « un moment de honte est vite passé ». Donc en fait moi je suis assez audacieuse, si on peut dire, et j'ose les choses en fait. Je suis en fait je passe à autre chose en fait. Je ressasse pas du tout. J'avance. Bon ben voilà, si ça marche pas, ben tant pis, j'aurais essayé. Enfin, en tout cas, j'aurais pas de regrets, quoi. J'avance et puis si ça marche pas, ça marche pas, on fait autre chose, et puis si ça marche, tant mieux, et puis voilà.
Où est-ce qu'on peut suivre ta marque, Pauline?
Alors, vous pouvez la suivre sur Insta, donc c'est Sève _ France, sur Facebook, sur le site internet, sève.com, donc S-A-E-V-E, et puis nous, on est vendus en pharmacie aussi, donc vous pouvez nous retrouver tous les points de vente sur où nous trouver. Sur le site, voilà.
Okay. Alors souvent à la fin de mes podcasts, je demande une chanson. Est-ce qu'il y a une chanson qui te parle ou qui te représente, et si tu le peux, explique-moi pourquoi.
Alors en ce moment, j'ai une petite obsession pour Elvis Presley.
Ah oui.
Donc la chanson que j'ai choisie, c'est parce que j'adore la mélodie, mais les paroles, bon, ils prêtent pas trop, mais c'est Suspicious Mind. Pourquoi? Parce qu'en fait, je te disais, ce voyage dans l'Ouest américain, en fait, on a profité pour se remarier avec mon mari à Vegas.
Wow.
À Las Vegas, avec mes enfants, on leur a fait la surprise, parce qu'en fait, on s'était déjà mariés à Las Vegas il y a 13 ans. C'est notre seul mariage. Ah. Et on s'est remariés à Graceland, à la chapelle Graceland, avec Elvis Presley. Donc, pas le vrai, mais le sosie vraiment incroyable. Donc, c'était un moment. Hyper drôle, hyper touchant, les enfants, c'était génial de partager ça avec eux. Donc voilà, et puis j'ai découvert depuis le personnage, il y a un reportage qui est passé il n'y a pas longtemps sur Arte, qui s'appelle les 7 vies d'Elvis Presley, que je vous invite tous, on peut le regarder sur YouTube. Et en fait, c'est un personnage hors norme qui me fascine totalement. C'est, il est né hyper pauvre, dans le Mississippi, il a renaquis, je ne sais pas si on dit comme ça, de ses cendres plusieurs fois. Il a été hyper ringardisé, il est revenu, il est hyper persévérant, il était pionnier de sa musique, il faisait une musique hyper inspirée, des musiques afro-américaines, parce qu'il a passé son enfance dans un ghetto afro-américain, où il était à peu près la seule famille blanche, où il allait à la messe, au gospel, commençait à chanter. Et donc c'était très subversif, sa façon même de danser. Même il a failli être excommunié. Enfin, c'était donc voilà, il était pionnier, il a osé, il était persévérant, parce que même quand il était ringardisé, il est revenu 10 ans après, il a recartonné comme pas possible. Et c'est quelqu'un d'extrêmement touchant, d'extrêmement, en tout cas, de ce qu'on voit de sa biographie, qui était très généreux, très humble et très, très sympa en fait. Et mais qui était un génie de la musique, qui avait ça dans le sang et qui avait...
Voilà. Alors écoute Pauline, c'est la fin de ce podcast. Je te laisse dire le petit message de la fin à nos auditeurs, auditrices. Peut-être qui aimeraient tester ta marque ou qui ne te connaissaient pas. Qu'est-ce que tu veux leur dire?
Je veux leur dire, les filles, foncez, vous posez pas trop de questions, voilà, pour ce que vous voulez faire. Moi, voilà, j'étais audacieuse, je pense que la chance sourit aux audacieux, donc voilà, si vous voulez des conseils pour vous aider, moi je suis prête à, voilà, vous pouvez m'écrire, hein. Mon mail c'est pauline.bonny@cef.com. Bonny ça s'écrit B-O-N-Y. Et voilà, n'attendez pas, la vie est trop courte. Il faut faire quelque chose qu'on aime. Et donc voilà, c'est mon conseil.
Eh bien, merci Pauline, super message, merci beaucoup et à bientôt.
À bientôt, au revoir. Don't